Maison des écrivains, une émission proposée par Christophe Nodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, un dialogue entre deux auteurs qui font parler l'Afrique, qui la font entendre dans leurs livres avec beauté, avec violence, avec drôlerie aussi. Parfois, la violence est celle des tirailleurs sénégalais, des combats qu'ils affrontent avec David Diop. Et la drôlerie, c'est avec le Cameroun d'aujourd'hui et Nicolas Fargue. Bonjour David Diop.
Bonjour.
Vous publiez Frères d'âme au seuil, c'est un roman qui nous emmène dans l'ultra-violence des tranchées de la Première Guerre mondiale, aux côtés du colonel Armand et de ceux qu'il envoie se faire tuer sous le feu allemand, notamment un détachement de tirailleurs sénégalais, dont vous extrayez le personnage de Alphane Diaye, qui a refusé d'achever, alors qu'il souffrait terriblement, son camarade Mademba Diop, et qui, tout à ce sentiment de culpabilité, va se mettre à raconter à la première personne son quotidien de soldat, mais surtout la violence dont lui aussi d'ailleurs fait usage chaque jour au combat, faisant la guerre comme un fou, disent ses compagnons, et les effrayant par cette folie jusqu'à être renvoyé à l'arrière pour prendre du repos. Alphane Diaye a en effet la particularité ou le travers, dans un moment presque ritualisé, de ramper jusqu'à la tranchée ennemie, d'emmener cet ennemi, de le tuer et de prélever l'une de ses mains, celle qui tient le fusil. Et chaque main va constituer une partie de ce trésor aussi puissant que dérisoire et un enjeu psychologique aussi pour ce narrateur que vous faites parler à la première personne et qui nous parle de la relation extrêmement forte qui se noue entre lui et sa victime. Et je dis qu'il nous parle car on a vraiment l'impression de l'entendre vraiment murmurer à notre oreille. Et c'est vraiment d'ailleurs ce qui unit votre texte avec celui de Nicolas Fargue. Frères d'âme, David Diop, c'est d'abord un travail sur le langage, sur la voix de l'Afrique. C'était vraiment l'idée de donner une voix à ce dont on n'avait peut-être jusque-là que des images.
Oui, on a en effet beaucoup d'images de tirailleurs sénégalais défilant. C'est des images évidemment qui donnent une vue de l'être à l'extérieur, mais on n'a pas de photographie évidemment de leur âme, de ce qui pouvait les animer, de ce qui pouvait les terrifier, de ce qui pouvait les faire souffrir. Donc j'ai voulu faire incursion dans leur intériorité en choisissant un psychorécit, c'est-à-dire le récit des pensées d'un personnage, pour être dans son intimité. On pense ce qu'on veut, on est libre de penser ce qu'on veut. Il n'y a pas de contrôle en fait de la pensée. Et j'ai voulu décrire ces pensées sur un théâtre de la guerre qui était inouï pour des tirailleurs sénégalais, pour d'ailleurs tous ceux qui venaient de la campagne, y compris de la métropole, un terrain de guerre où les bombes tombaient toutes les secondes, par milliers, un terrain qui était une terre dévastée, où la nature n'avait plus sa place, c'est-à-dire donner des plantes, donner de la vie. Or, autant les tirailleurs sénégalais que les Français paysans qui venaient à la guerre, eh bien, devait aussi être extrêmement choqué par cette terre à personne qui n'avait aucun sens, puisqu'elle ne donne plus la vie, c'est une terre qui est associée à la mort systématiquement.
Avec ce paradoxe de décrire, on y reviendra, mais justement les tranchées comme un sexe de femme en fait, donc qui devrait en principe donner la vie.
Oui, la terre donne la vie pour la reprendre. Les soldats arrivent au monde pour être tués et puis être absorbés. On peut aussi avoir une vision matérialiste du monde, c'est-à-dire cette chair redevient matière et dans le fond, c'est peut-être le moment ou le gage d'une renaissance. Mais cette intériorité-là, je la voulais sans filtre, l'intériorité du personnage, pour donner la mesure de ce qu'a pu être le choc quand on arrive d'Afrique et ou qu'on arrive du Béarn devant cette guerre usinière, comme l'appelle Blaise Sandras.
Bonjour Nicolas Fargue.
Bonjour.
Alors vous publiez « Attache le cœur » chez POL, c'est un recueil d'instantanés camerounais, comme le dit le sous-titre. 15 portraits à la première personne, de noirs et de blancs qui vivent au Cameroun ou qui ont quitté le Cameroun mais qui gardent avec lui un rapport très très fort, très particulier. Ils s'appellent Landry, Gilbert, Eric, Claude, Julien, Jean-Fils, Marie-Marthe, Sylvie. Et en quelques phrases, en quelques pages, vous nous les faites exister à la première personne aussi. Ils racontent un morceau de leur vie. Alors, par exemple, l'artiste africain qui postule pour une résidence d'artiste et qui demande à sa maîtresse blanche de relire son dossier sans s'apercevoir qu'il est totalement à sa merci. La jeune femme qui raconte comment sa famille est en train de mettre à genoux son mari, ils doivent se marier en lui demandant cadeau après cadeau. C'est la dot, hein. Honoré, par exemple, qui vit à l'étranger et qui apprend que son père est mort et qui va peut-être perdre toute cette vie qui s'était construite parce qu'il risque d'être nommé chef du village. Il y a les blancs aussi, les blancs naïfs qui voudraient faire corps avec ce pays, et puis les blancs sans scrupules qui en profitent fort de leur statut. Ce sont des portraits en paroles, des portraits en mots qui sont pas très roses mais qui sont toujours mordants, et on vous reconnaît bien là, Nicolas Fargue, traitant les blancs et les noirs avec le même regard impitoyable, la même absence de jugement. Même question qu'à David Diop, Attache le cœur, avec ce titre aussi très particulier, vous allez nous expliquer si vous le voulez bien. Est-ce qu'il procède d'abord de l'envie, du désir de faire entendre l'Afrique et ceux qui y vivent sans jugement, sans écran, de façon très directe, quoi, comme ça sort ?
Oui, je vais vous répondre avec la problématique que vous avez soulevée, qui est celle de la langue avant tout. Avant même un sujet, c'est une musique qui pousse à l'écriture. Chez David, c'est effectivement rentrer dans la tête d'un tirailleur sénégalais, de lui trouver une langue, parce qu'avant même de se dire, lorsqu'on écrit, de quoi je vais parler, c'est comment je vais en parler. Comment est-ce que, vous savez, des questions toutes simples, quelle personne ? Écrire à la première personne, c'est pas comme écrire à la troisième. Un passé simple, c'est pas comme un présent. Et ce sont les premières questions qu'on se pose lorsqu'on écrit. Lorsqu'on est un lecteur ou qu'on ouvre un livre et qu'on rentre dans une histoire, on ne se doute pas de la cuisine qui précède la mise à l'écriture. Et souvent, avant tout, c'est celle de la voix. C'est celle qui va tout déterminer. C'est pour ça qu'un incipit de livre, c'est lui qui est le tremplin, c'est lui qui va donner le ton. Et avant même de vouloir parler du Cameroun, avant même de parler de rapports noir-blanc qui effectivement sous-tendent ce livre, c'est d'abord de personnages à travers leur langue qu'il est question. Il y en a 15, il y a 15 langues. Et tout ceci lié par mon sens de l'esthétique à moi. Donc je ne prétends pas être chacun de ces personnages, mais j'essaye de deviner à travers ce que j'ai perçu de leur musique, qui ils peuvent être.
Vous parliez d'Inkipit, d'ailleurs je lis celui de David Diop. Je sais, j'ai compris, je n'aurais pas dû. On continuera tout à l'heure. Vous, Nicolas Fargue, vous commencez par un lexique justement. On parlait de voix, on parlait de langue. C'est par un lexique que vous avez, alors franco-camerounais, comment on peut dire, arnaque.
Un lexique camfranglais. Camfranglaisien.
Arnaque combine. Bon, ça, en même temps.
Oui, mais une arnaque, c'est pas forcément chercher à profiter de la naïveté de quelqu'un. C'est aussi, on va dire, un système D. C'est plutôt comme ça qu'on l'entend en Cameroun.
Voilà, donc babouche, babtou, hein, le blanc, toubab.
Oui, d'ailleurs, je vais poser une question à David.
Bah oui.
David, vous utilisez le mot toubab dans votre livre. Je suis allé vérifier. Effectivement, c'est un mot qui déjà est recensé en 1913 dans des dictionnaires. Est-ce qu'un jeune homme, un jeune Sénégalais de 22 ans, ou 20 ans, peut, à l'époque, utiliser ce mot de façon courante?
Ah oui, 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 tout à fait. C'est pour désigner les toubabs, c'est-à-dire les blancs. Eh bien, ce mot existe bien là depuis très longtemps. D'accord. Il a été enregistré, en effet, peut-être par justement les autorités françaises en 13, mais
il était déjà dans l'usage.
Bien sûr, dans les textes du 18e
siècle. Même en Wolof,
siècle.
Le mot est utilisé, par exemple.
Mais bien sûr.
Mais toubab, hein, pas babtou.
Non, pas Babtou. Ouais, ouais. Ça c'est venu Babtou, plus tard. C'est parisien.
Voilà,
c'est le retour, c'est une traduction.
Après ce lexique, hein, cette première phrase aussi qui pose le décor, Nicolas Fargue, l'Europe, gars, j'ai déjà donné. Et on continuera tout à l'heure.
Mais oui, regardez, que ce soit dans le cas de David ou du mien.
On rentre dedans, là.
Bah, c'est-à-dire que. Ouais. Un incipit comme celui de David ou comme celui-ci vous donne tout de suite le ton. Vous êtes ensuite obligé de vous surveiller de A à Z par rapport à cette première phrase. Est-ce que ça tient la route par rapport au ton que j'ai donné? C'est ça. Et il y a quelque chose de commun à nos deux livres, effectivement.
Ah bah c'est pour ça que vous êtes
non,
là.
Non, mais bien sûr, mais c'est exact. Mais on est au cœur du sujet là-dessus. Avant même, je pense, David, dites-moi si j'ai tort, avant même des tranchées ou du Cameroun, il est question de cohérence de langue. Oui. C'est que ça, parce que vous n'êtes pas le premier à écrire sur l'étranger, je ne suis pas le premier à écrire sur le Cameroun, mais en revanche, chercher une voie, là oui, nous avons cherché notre voie.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, Nicolas. Dans Frère d'âme, il s'agissait de traduire en français quelqu'un qui ne parle pas français, traduire les pensées. Ouais. Et pour le faire, la langue française, elle est malléable. on peut lui donner un rythme différent qui rappelle le rythme d'une autre langue. Et cette façon de répéter la même formule ou de reprendre...
Par la vérité.
Les yeux bleus, jumeaux, etc.
C'est donner au lecteur français ou francophone qui ne parle pas le Wolof une vue sur un horizon culturel porté par une langue différente. L'horizon culturel français est enrichi d'un autre horizon culturel à travers le maniement d'une langue et la construction d'un rythme. Et donc, comme le dit Nicolas, il fallait regarder ce rythme-là.
Et vous, Nicolas Fargue, avec le Cameroun d'aujourd'hui ?
David vient parfaitement de résumer effectivement toute la gageur d'une telle entreprise. Moi, je ne suis pas Camerounais. J'ai vécu au Cameroun, je dirais, suffisamment pour percevoir. Et encore, je vous dis le Cameroun, mais il y a le Cameroun du Nord, où les gens sont des peuls, qui n'a rien à voir avec les Bamiléké, qui eux-mêmes n'ont rien à voir avec les côtiers. Vous avez 250 langues au Cameroun. Vous avez dans le Nord des langues avec des sonorités beaucoup plus proches de ce qu'on peut entendre dans les pays arabes. Ensuite, vous avez des langues bantoues. Ça n'a rien à voir. Donc moi, je vivais à Yaoundé, qui est la capitale, où vous avez des gens qui viennent de partout. Tous ne se comprennent que grâce à une langue. Et ça, c'est un cas quasiment unique dans la francophonie. C'est pas du tout le cas au Bénin ou c'est pas le cas au Congo-Kinshasa. Les gens se comprennent par le français.
Oui, le français. C'est encore le français qui tient le
haut. Vous allez sur le marché à Yaoundé, tout le monde ne parle pas Ewondo, tout le monde ne parle pas le Bassa, tout le monde ne parle pas les langues Bamiléké, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, les gens se comprennent par le français. Je pense qu'à Dakar, les gens ne se comprennent pas avant tout par le français.
Mais c'est le Wolof.
C'est le Wolof avant tout. À Yaoundé, au Cameroun, c'est unique.
Et c'était ce français fédérateur avec des inflexions propres que vous vouliez... donner à
il y a mille façons de se réapproprier
dans le livre
oui. Alors je dirais que la langue française qu'on trouve d'un personnage à l'autre, c'est la mienne dans ce livre, mais là je reviens sur ce que disait David, la langue française est suffisamment malléable pour ensuite donner une idée de ce que peut être une autre pensée que la vôtre. En la rythmant, en cherchant... J'ai cherché des rythmes différents, selon que ce sont des personnes plus ou moins âgées, des blancs, des noirs, des femmes, des hommes, selon la région même d'où ils viennent. J'ai cherché des inflexions différentes, mais qui sont mon interprétation à moi.
Et un petit mot sur Attache le cœur, sur ce titre.
Alors, Attache le cœur, c'est une expression... Je ne vais pas dire que c'est une expression camerounaise. Je l'ai déjà entendue au Cameroun, à plusieurs reprises. Elle n'est pas très courante. Elle veut dire, en fait, tiens bon. Elle veut dire, serre les dents. C'est pas attache ton cœur, c'est attache le cœur. Je trouve ça très intéressant qu'on n'utilise pas le pronom possessif. Que la langue, en français, on dirait, mais non, on dit pas attache le cœur, on dirait attache éventuellement ton cœur. Non, la réappropriation de.
Attache mon cœur.
Oui, mais justement, non, là, ça, je trouve que ça tomberait à plat. Ce qui est intéressant, c'est,
c'est une belle déclaration.
De désincarner le cœur. C'est que ça devienne presque. Parce que de quoi parle ce livre, si on parlait de sujet, c'est. On n'imagine pas le seuil de tolérance à la douleur que peuvent avoir les gens dans les pays tels que le Cameroun. Je veux pas faire du misérabilisme, je dis juste qu'on n'imagine pas ici, en Occident, ce que les gens endurent. On ne sait pas. Et quand on voit même les gens ici qui ont pour origine peut-être le Cameroun, le Sénégal, le Congo, l'Éthiopie, Madagascar, on les voit dans le métro, on les voit voisins, on les voit sur nos lieux de travail, on ne sait pas. On a des idées, on plaque des choses, parfois misérabilistes, complètement caricaturales.
Mais on ne sait pas en vouloir non plus à des gens qui n'ont peut-être pas voyagé, cette faculté de se projeter dans des vies qu'ils ne connaissent pas.
Les gens ont une pudeur qui fait qu'ils ne disent pas.
Donc ici, là, c'était le moyen de lever cette pudeur aussi.
Voilà. C'était une façon de dire, regardez de plus près peut-être ces gens que vous croyez connaître.
Ouais. Il y a un déficit, justement, sur le plan littéraire de la... Je sais pas si je vais dire la parole africaine, mais en tout cas... pour les tirailleurs sénégalais, ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, on avait l'image mais on n'avait pas le son, quoi.
On a des lettres de tirailleurs sénégalais.
Comme les lettres de poilu, en fait. Mais,
ouais. Voilà, mais alors, elles sont différentes d'après ce que me disent les historiens. Les lettres des tirailleurs sénégalais, ce sont des lettres administratives. Il n'y a pas de lettres qui reflètent l'intimité des gens. Parce que, justement, Nicolas en parle, en tout cas en Afrique de l'Ouest, il y a une pudeur. Les gens ne parlent pas d'eux. On est dans des sociétés nobiliaires où le guerrier, en fait, ne se répand pas en lamentation. Et il y a beaucoup de tirailleurs, à mon sens, qui sont revenus et qui n'ont rien dit. leur corps amputé a parlé pour eux, leur folie a pu parler pour eux, parce qu'il faut savoir qu'en 1919, il y a un bateau qui s'appelle le Flandre, qui arrive de Marseille à Dakar et qui dépose 99 fous à côté de centaines de mutilés ou de blessés ou de gens sains et saufs. Et ça, c'est quelque chose que j'ai voulu contourner, justement en utilisant un psychorécit. C'est-à-dire, là, on pense...
Psychorécit, juste pour expliquer, vous nous expliqueriez
de... Alors, c'est un récit...
J'ai pas dit, vous êtes universitaire, d'ailleurs.
Oui, alors, j'aurais peut-être à dire...
Voilà, maître de conférence à l'université de Pau, vous enseignez quoi, David Diabaté?
J'enseigne la littérature du XVIIIe siècle français.
Voilà. Ouais. Ah,
Alors, c'est un terme qui appartient à la narratologie, décrire...
Pour les auditeurs de France Culture.
Décrire le flux de pensée, en fait.
Psychorécit, c'est clair, oui.
Le flux de pensée d'un personnage. Ouais. Alors, c'est très codifié, puisqu'on met du récit là où peut y avoir une spontanéité, une pensée par image, etc. Mais c'est une convention. Ouais. Donc, voilà.
Et psyché, c'est l'âme en grec, donc c'est parfait pour frère d'âme. Merci. Voilà. Psychorécit, vous le prendriez aussi à votre compte,
Nicolas
Farley.
Je suis heureux d'avoir
appris ce
terme. C'est comme, vous savez, autofiction, etc. Ouais. Mais psychorécit, ça
vous
précis,
va bien
c'est...
pour attache le cœur.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord.
Flux de conscience aussi.
Oui, et j'ai commencé à écrire. Alors, ça, c'est mon 13e livre. Mais j'ai commencé à écrire quand j'avais 25 ans des psychorécits. Ça a été ma première expression littéraire. C'est d'essayer de me mettre dans la tête de quelqu'un d'autre avec mes mots à moi.
Mais vous connaissiez le mot psychorécit?
Non, je viens de l'apprendre grâce à David, justement. Et je trouve qu'il est parfaitement limpide. Et
c'est stream of consciousness, un peu, c'est ça?
C'est le courant de la pensée, mais quand même traduit en littérature. Arbitrairement.
Parce que Virginia Woolf avait fait aussi.
Puis James Joyce aussi. Mm-hmm. Arbitrairement, on décide que quand on pense. On construit notre pensée comme un discours et qui a un début, un milieu et une fin et qui est donc ordonné. Mmh. Et c'est une convention et beaucoup d'écrivains ont bousculé cette convention-là justement.
Je fais un petit retour en arrière sur cette question de pudeur. Il est là le grand malentendu, je dirais, en fait. On est ici dans des sociétés, comme le disait David, où les gens se répandent. Même pour rien. On se plaint pour rien, j'ai envie de dire souvent, parce qu'il y a une fuite du voisin du dessus, et donc ça vous fout la journée en l'air, etc. Et que ça soit dans le livre de David, où il est dit des choses violentes, mais avec une grande pudeur. Même la façon de parler de sa relation amoureuse aussi est très pudique, avec cette jeune... comment s'appelle-t-elle?
Farid,
c'est ça. C'est, je dirais aussi, vous savez, c'est en parlant de nos propres livres qu'on voit de quoi il parle. Moi, je sais que j'ai eu finalement, là, je mets des mots dessus, j'ai eu envie de parler de pudeur dans ce livre-là. J'ai eu envie de parler de pudeur. C'est là-dessus, et il faut trouver aussi le langage de la pudeur. Et c'est ça qui est difficile dans ce psychorécit, d'à la fois être précis, d'évoquer sans rentrer dans le déballage. Parce que vous êtes dans la
enfin,
dans
ça
la
sort
tête
quand même.
Quelqu'un.
Enfin, on en parlera tout à l'heure, mais dans la tâche le cœur, ça.
Oui,
enfin,
bien
ça,
sûr.
Ça déroule, tout est dit. Enfin, je veux dire, on garde assez peu de choses. Que ça soit le blanc qui raconte ce qu'il fait le soir dans les boîtes de nuit, etc. Il déballe. Le jeune naïf qui se retrouve
le même
tout
langage,
nu sur un stade.
Ce blanc va utiliser.
Pareil.
Ce blanc va utiliser des mots beaucoup plus crus que celui de ce jeune honoré qui lui est l'amant d'une blanche. Où il ne va pas du tout. Il va utiliser pas des métaphores, mais il va utiliser des détours du langage pour parler de sexe, par exemple. Ça va pas être la même langue.
Non, et comme c'est plusieurs personnages, effectivement, c'est...
Mais en tout cas, tout ça pour dire que le psychorécit, effectivement, enfin, tout l'enjeu est là, c'est comment s'autoriser à tout dire sans tout déballer.
On va continuer avec vous, Nicolas Fargue, et vous, David Diop, et parler voilà, de cette voix, de cette voix que les écrivains doivent trouver pour parler de ceux qui n'ont pas de voix ou dont on ne pourrait pas percevoir la voix parce que c'est pas le même langage, par exemple. Et on va plonger dans les tranchées de 14-18 avec vous, David Diop. Vous avez publié Frères d'âme au seuil, c'est un très beau roman. On écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi Ismaël Lô, Tadjobone.
Le temps des écrivains. Christophe Onodibio.
Thank you. yobon, denye ta yobon. Ta, ta yobon, denye ta yobon. Abdu, hu yambar, nyare malaikala. Hawe, he chiko, dano sisaro. Momu, munila, degam julingam. Momu, munila, degam wongam. Momu munila degam julinga. Momu munila degam wonga.
Ismaël Lo, Tadjobon, c'est le choix de David Diop qui publie Frère d'âme aux éditions du Seuil. Il est avec Nicolas Fargue qui publie Attache le cœur chez POL. Pourquoi ce choix musical? On a reconnu, c'est réminiscent d'un film d'Almodovar.
Oui, c'était Almodovar a choisi cette chanson dans Todo sobre mi madre de Pedro Almodovar. C'est une chanson que j'aime beaucoup parce qu'elle me rappelle mon enfance. Stadio Bon, c'est une chanson qui est chantée à la fin du Ramadan, dans une sorte de carnaval, et par les enfants sur un rythme beaucoup plus rapide que celui qu'emprunte Ismaël Lo. Et lui, il a ralenti le rythme. Et bon, j'associe cette chanson à une partie de mon enfance. Et il y a une forme de nostalgie dans la chanson qui s'adapte à une nostalgie que je veux avoir par rapport à mon enfance.
Ah, et que vous voulez avoir.
Oui, parce que j'ai eu une belle enfance au Sénégal. Donc,
mais dans nostalgie, il y a la douleur. Quoi.
Non,
il y a... Nostos.
Oui, il y a la douleur, mais c'est une douce douleur, on va dire.
Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, Tadjobon?
Alors, je ne saurais pas vous le traduire précisément. Il chante en wolof. Mm-hmm. Bon, il parle. C'est une chanson que tout le monde chante. Les enfants chantent sur savoir si on a bien fait le jeûne. Sinon, il y a deux anges qui viennent, qui vous demandent ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez bien jeûné? Est-ce que vous avez bien prié pendant le Ramadan? Bon, c'est vraiment une chanson populaire qu'il a reprise et qui lui a donné ce ton. C'est assez extraordinaire pour moi.
Alors, vous publiez, je disais, Frère d'âme au seuil, un roman dont on a beaucoup parlé et dont on continuera à parler en cette rentrée. Roman qui nous emmène dans la violence extrême des tranchées de la Première Guerre mondiale, aux côtés du colonel Armand et de ceux qui l'envoient se faire tuer sous le feu ennemi, notamment un détachement de tirailleurs sénégalais dont vous extrayez le personnage de Alphan Ndiaye, qui a décidé en fait de ne pas achever son ami Madame Badiop, qui souffrait le martyre, les entrailles à l'air. Vous dites le dedans au dehors qui revient toujours. Il y a c'est vrai que ce roman a la particularité de faire revenir aussi des morceaux de phrases, des expressions, notamment les expressions des yeux bleus des Allemands, hein, les yeux bleus jumeaux, dit Alphan Ndiaye. Et en fait, tout à ce sentiment de culpabilité, parce que c'est ça qui déclenche l'intrigue, il va se mettre à raconter à la première personne à la fois son quotidien de soldat, la violence dont il fait usage chaque jour au combat, d'autant plus qu'il est pris par les autres pour un fou, parce qu'il a vraiment une façon de se battre qui dérange, puisque peut-être pas chaque nuit, mais de temps en temps, il part de l'autre côté des lignes ennemies, capturer un soldat et lui trancher la main, qu'il rapporte comme un trophée ou un talisman. Et ses mains inquiètent beaucoup, notamment les blancs qui sont autour de lui. Vous avez aussi cette expression, il rampe comme un mamba noir, comme ce serpent. Et c'est cette collection de mains qui va provoquer son renvoi vers l'arrière, qui va coïncider dans le livre avec une un moment de réminiscence. Vous parliez de nostalgie de votre enfance, David Diop. Un retour vers l'âge d'or, en fait, de la terre natale. Sa vie en Afrique avant la guerre, le corps des femmes aussi, l'amour, l'attrait, le désir. Et je voulais vous demander d'abord, David Diop, comment vous avez travaillé. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. On a beaucoup de lettres de poilus, en fait, qui ont pu inspirer bien des écrivains pour des romans. Vous nous disiez qu'on avait l'équivalent, mais ce sont des lettres plutôt administratives. Je voudrais qu'on revienne sur l'avant, frère d'âme, toute cette matière que vous avez convoquée. Quelle était-elle?
Alors, j'ai lu des travaux d'historiens sur la place des tirailleurs sénégalais pendant la Grande Guerre. Mais j'ai voulu me détacher de ces matériaux. C'est-à-dire que je voulais pas faire un reportage historique sur le rôle des tirailleurs sénégalais qui venaient d'ailleurs de toute l'Afrique de l'Ouest, pas simplement du Sénégal, dans la Première Guerre mondiale. Je voulais ensuite, à partir de ce matériau-là, créer un contexte où il n'y aurait plus de repères, où on pourrait avoir le sentiment d'une absurdité totale, qui était probablement celle de ces tirailleurs, qu'ils n'ont pas dites. On disait tout à l'heure qu'il y avait de la pudeur. Il y a eu de la pudeur aussi chez beaucoup de poilus qui sont rentrés et qui n'ont rien dit. Bon, voilà. Je crois que au-delà finalement de la couleur des combattants, il y avait plusieurs attitudes possibles. Il y a certainement des tirailleurs qui ont raconté beaucoup ce qu'ils avaient vu. Et dans un contexte colonial, d'ailleurs, ça a eu des conséquences importantes, puisque ils ont dit « on a vu le colon pleurer, avoir peur, souffrir ». On l'a vu partager avec nous beaucoup de souffrances, on a fraternisé avec lui. Donc ça, je voulais en fait le suggérer, le montrer, mais indépendamment d'un contexte précis, du contexte d'une bataille. Là, j'ai voulu montrer que c'était toutes les batailles.
Toutes les batailles, c'est-à-dire voilà, la mère des batailles.
Ouais. J'osais pas le dire, vous l'avez dit. Ouais. Voilà, c'est une bataille où il n'y a pas de repère, mais où la souffrance, elle est jusqu'à l'os, on la racle jusqu'à l'os.
Mais ces éléments que vous nous signaliez, de « on a fraternisé avec le colon, on l'a vu avoir peur », c'est quelque chose qui a été trouvé, enfin, que vous avez vu dans ces lettres, dans des documents, dans quel...
Alors, Amadou Mbateba, dans Amkoulol, enfant Peul, dit plusieurs choses sur les tirailleurs sénégalais qui partent du Mali, là. Il dit, voilà, on a une classe d'âge qui était en voie d'acquérir des connaissances qui sont transmises oralement, hein, dans tel ou tel corps de métier, qui est parti et ces connaissances-là sont perdues. Il n'y a plus de lien. Il dit ça. Et puis il a dit, ces gens qui sont partis, ils sont revenus, pour certains, heureusement, et ils ont commencé à dire, voilà, ce qu'on a vu en France, c'est peut-être pas ce qu'on nous raconte, c'est pas ce pays mythique. C'est pas, si vous voulez, cet endroit où tout est beau et où la civilisation, la mission civilisatrice va arriver et se répandre sur nous. Et ça, ce transport de population forcé ou volontaire, hein, il y a beaucoup de tirailleurs qui sont partis volontairement, eh bien, ça a permis, disent les historiens, justement, et Amadou Mbateba, qui est traditionnaliste, pas vraiment historien, le dit également, ça a permis de faire évoluer la représentation que pouvaient avoir des Africains de l'Ouest de la mère patrie.
Et est-ce qu'un Senghor qui a écrit hein, « Aux tirailleurs sénégalais morts pour la France », est-ce qu'un Senghor a été inspirant aussi? Parce que finalement, vous choisissez, vous, la fiction pour parler de cette réalité historique.
Oui, il a été inspirant.
Lui, c'était la poésie.
Il a été inspirant parce qu'à un moment donné, il parle... dans ce poème que vous citez.
On peut le citer, hein, par exemple. « Écoutez-moi, tirailleurs sénégalais, dans la solitude de la terre noire et de la mort, dans votre solitude sans yeux, sans oreilles, plus que dans ma peau sombre au fond de la province, sans même la chaleur de vos camarades couchés tout contre vous comme jadis dans la tranchée, jadis dans les palabres du village. Écoutez-moi, tirailleurs à la peau noire, bien que sans oreilles et sans yeux, dans votre triple enceinte de nuit. » Voilà, bon, c'est un passage.
C'est un très magnifique poème. Et il dit ailleurs, voilà, qu'il veut en même temps effacer des affiches de Paris le sourire banania du tirailleur sénégalais. Et moi, j'ai voulu, s'il y a une part d'intention dans l'écriture aussi, c'était de dépasser, de déjouer la propagande française qui a finalement poussé le tirailleur sénégalais vers ce qui était attendu de lui, c'est-à-dire la sauvagerie. On les armait quand même d'un coup-coupe, pour les envoyer sur le front, pour nettoyer les tranchées et pour faire peur aux Allemands. Donc là, il y a un préjugé. Et s'il y a un lien avec la vue de Senghor sur le tirailleur sénégalais, c'est dans cette volonté de déjouer ces préjugés.
Alors précisément, parce que là j'ai une question à vous poser justement, David Diop, sur est-ce que vous déjouez les préjugés ou est-ce qu'au fond, vous ne mettez pas de façon intéressante finalement le doigt sur ces clichés sans les désarmer totalement. Je voudrais qu'on vous entende lire un passage justement, le passage au coupe-coupe, hein. C'est l'un des moments où votre personnage Alphan Diaye sort de la tranchée pour aller de l'autre côté des lignes ennemies et prélever sa dîme, j'allais dire.
Le terrible est quand, une fois que j'ai repris mon souffle, je déshabille l'ennemi d'en face. Quand je déboutonne le haut de son uniforme, là je vois les yeux bleus de l'ennemi s'embuer. Là je sens qu'il a peur du pire. Qu'il soit courageux ou affolé, brave ou pleutre, au moment où je déboutonne son uniforme, puis sa chemise, pour dénuder son ventre tout blanc sous le clair de lune ou sous la pluie ou sous la neige qui tombe doucement, là je sens les yeux de l'ennemi d'en face s'éteindre un peu. Tous pareils, les grands, les petits, les gros, les courageux, les pleutres, les fiers. Quand ils me voient regarder leur ventre blanc palpitant, leur regard s'éteint, tous pareils. Alors je me recueille un peu et je pense à Madame Diop. Et chaque fois dans ma tête je l'entends me supplier de l'égorger. Et je pense que j'ai été inhumain de le laisser me supplier 3 fois. Je pense que cette fois-ci je serai humain. Je n'attendrai pas pour achever mon ennemi d'en face qu'il me supplie 3 fois. Ce que je n'ai pas fait pour mon ami, je le ferai pour mon ennemi, par humanité. Quand il voit que je saisis mon coupe-coupe, les yeux bleus de l'ennemi d'en face s'éteignent définitivement. La première fois, l'ennemi d'en face m'a donné un coup de pied avant de tenter de se relever pour fuir. Depuis lors, je prends soin de ligoter les chevilles de l'ennemi d'en face. Et c'est pourquoi, dès que j'ai mon coupe-coupe dans la main droite, l'ennemi d'en face gigote comme un fou furieux, pensant pouvoir m'échapper. C'est impossible. L'ennemi d'en face devrait savoir qu'il ne peut plus m'échapper tellement ses liens sont serrés. Mais il espère encore. Je le lis dans ses yeux bleus comme je l'ai lu dans les yeux noirs de Madame Diop, l'espoir que j'abaisserai ses souffrances.
Merci David Diop, c'est un extrait de Frères d'âme. Alors justement, on revient à notre discussion sur les clichés et sur la propagande française, sur les tirailleurs sénégalais. Ce que vous montrez dans ce livre, c'est aussi précisément la sauvagerie de ce combattant qui est vu par les autres comme un sauvage et qui même revendique, alors il le dit en termes beaucoup plus poétiques, mais le fait d'aller trancher la main, de sortir les entrailles de l'ennemi, comme justement son amie Madame Badiop s'est retrouvée aussi à cause d'un obus les tripes à l'air. Au fond, est-ce que vous ne l'épargnez pas aux yeux du lecteur? Il finit par correspondre aux stéréotypes qu'on véhicule justement à l'époque sur les Noirs, la sauvagerie. Il y a même un peu l'idée d'anthropophagie à un moment. Les gens se demandent s'ils ne mangent pas les mains, puisqu'on ne les retrouve pas.
Oui, mais on est tous d'accord que le nègre n'est pas sauvage. Donc le jeu, c'est de montrer au lecteur que la sauvagerie, ce n'est pas une sauvagerie individuelle, mais c'est la sauvagerie de la guerre. La guerre, vous l'avez dit, en posant votre question, Christophe, vous avez dit, mais la guerre, c'est les obus. Et que font les obus? Ils éventrent. Ouais. Ils arrachent les mains,
têtes, ouais.
Ils arrachent les mains, ils enlèvent les têtes.
Oui, mais simplement. Lui, il va au-delà. C'est-à-dire que on lui demande pas d'aller le soir de l'autre côté prélever un ennemi. Il fait du zèle dans cette sauvagerie.
Et c'est en ce sens-là qu'il est inquiétant, parce qu'il va au-delà de ce que souhaitent très profondément tous ceux qui envoient ces jeunes gens à la guerre, c'est qu'ils tuent le maximum de gens. Mais simplement, le capitaine Armand, qui commande à ses tirailleurs ou à ses soldats français de la métropole, à ses poilus, d'aller tuer l'ennemi, il veut que ça soit civilisé. Et j'ai voulu montrer que, dans le fond, on peut réfléchir au rapport entre ce qui est civilisé ou pas civilisé en mettant en scène un personnage qui va au-delà de ce qu'on lui demande et qui est libre en fait, puisqu'il pense l'obéissance et il en joue lui aussi de cette obéissance. Il va au-delà des attentes de tout chef de guerre qui est de tuer au maximum l'ennemi.
Mais si on entre un peu dans l'atelier de l'écrivain, est-ce qu'à un moment vous êtes posé la question, bon, est-ce que je vais en faire une sorte d'agneau, justement, de montrer que c'est l'antithèse, justement, du cliché. Je vais en faire quelqu'un qui est obligé de faire ce qu'on lui dit, mais pas quelqu'un qui va au-delà, justement, dans cette violence physique et le coupe-coupe. Et quand on écoute le passage que vous nous avez lu, il y a tout un jeu aussi d'empathie au moment même où on fait souffrir. Enfin, c'est très perturbant aussi, c'est très intéressant, littérairement. Mais vous auriez pu choisir d'en faire quelqu'un qui reste en retrait de cette violence. Or, vous avez choisi d'aller au-delà, de pousser vraiment les curseurs au maximum.
Oui, parce que je ne suis pas aliéné par la représentation qu'on peut avoir du noir. En fait, se retenir, c'est être aliéné. Se retenir en parlant de cette supposée sauvagerie, c'est être aliéné. Il y a un auteur que j'admire beaucoup, qui est Amadou Kourouma, qui joue sur les préjugés et les clichés tranquillement. Et tout à fait en se
on
disant,
y va.
On y va. Si on n'y va pas, ou en tout cas si on se retient, ça signifie que on est touché par une représentation de soi ou de l'autre aliénante.
Alors en même temps, quelque chose qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que, on en parlait tout à l'heure, ça part d'un sentiment de culpabilité.
Oui.
Au fond, il n'a pas voulu, il a laissé son ami agoniser dans d'atroces souffrances, il ne l'a pas achevé, il n'a pas voulu le faire. Et tout ça déclenche... comment est venu ce ressort, justement, romanesque de la culpabilité
Oui, alors je me suis tout simplement mis à la place de quelqu'un qui voit son ami mourir. Cet ami lui demande de l'achever et il ne peut pas le faire. Et pourquoi il ne peut pas le faire? Parce qu'on ne peut pas tuer... C'est un des principes de l'humanité, de refus. Tu ne tueras point, bon, dans tous les textes.
Oui, justement, c'est presque judéo-chrétien, quoi.
Voilà, mais je suis judéo-chrétien aussi.
Oui, donc là, c'est l'auteur, c'est l'autorité de l'auteur, l'auctoritas.
Ouais. Non, mais dans toutes les civilisations, tuer, c'est un sacrifice. Et on ne peut pas tuer sans prendre des dispositions pour faire ce sacrifice-là.
Alors, cette culpabilité va mener à la nostalgie dont on parlait tout à l'heure. Je voudrais lire un extrait, parce qu'au fond, ce ressort romanesque-là, cet inconfort aussi psychologique du personnage, l'emmène à retrouver justement cette enfance. Et il y a un très très beau passage sur sa mère. « Ce que j'ai dessiné en premier sur la feuille que m'a donnée le docteur François est une tête de femme. J'ai dessiné la tête de ma mère. Par la vérité de Dieu, ma mère est très belle dans mon souvenir et je l'ai dessinée bien coiffée à la mode Peul, bien parée de ses bijoux à la mode Peul. Le docteur François n'en revenait pas de voir les beaux détails de mon dessin. Ses deux gros yeux bleus jumeaux derrière ses lunettes me l'ont dit clairement. Rien qu'avec mon crayon, j'ai donné vie à la tête de ma mère. » Et puis ça continue, il y a les lourds pendentifs d'or torsadés aux oreilles et les fins anneaux d'or rouge piqués aux ailes de son nez busqué. On voit comment aussi procède le texte, avec ses yeux bleus jumeaux qui reviennent, à la mode Peul, là, qui revient. Sur cette invention de la langue, je voudrais qu'on revienne une dernière fois là-dessus. Une question à vous poser. Vous avez expliqué que vous retranscriviez en fait un langage, donc en français, qu'il ne pouvait pas avoir, puisqu'il s'exprime en Wolof. Et il y a parfois des petits à-coups. Par exemple, vous parlez de ce lézard qui fait pipi du poison qu'il voyait dans son enfance. Hein.
Ouais.
Et puis, quand il parle de la femme, et on en parlait avec Nicolas tout à l'heure, et du désir, il y a le mot jouir, qui est presque trop précieux, au fond, jouir. C'est presque, dans un langage finalement imagé et simple, on n'utiliserait pas le mot jouir.
Quel mot vous utiliseriez?
Ah ben ça, je vous répondrai. Voilà, vous verrez, je vous ferai lire des choses.
écoutez,
là, je vous demande à vous. Enfin, moi,
oui,
je,
oui,
voilà,
non, oui. Moi, je. C'était. Alors, je ne l'ai pas pensé.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que le mot est venu pour décrire la chose.
Oui. Et vous voyez, alors, le lézard, il n'est pas empoisonné. C'est le lézard qui fait pipi du poison.
Alors,
c'est très beau.
C'est
jouir, c'est très sobre, voilà.
Le hunk est vraiment un lézard venimeux, et c'est objectivement son urine ou ce qui dégage qui peut empoisonner. Donc là, finalement, j'ai pas cherché d'effet. C'est venu comme ça. Parce que j'ai écrit Frère d'âme vraiment sans filtre ou très peu. C'est-à-dire qu'il y a peu de correction du texte de départ. Je l'ai écrit manuscritement, parce que j'écris manuscritement. Ensuite, je tape sur l'ordinateur. Et là, il y a des expressions peut-être aussi qui sont revenues de mon enfance, qui appartiennent au personnage, mais qui m'appartiennent évidemment aussi, et que j'ai retranscrites sans filtre, en fait.
Et puis, si je puis me permettre, lorsqu'on se lance dans un psychorécit, tel qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas rester... Le récit suit aussi l'incohérence du langage que nous avons en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester uniquement sur du lyrisme. Il y a aussi des moments, parfois, où on appelle un chat un chat. C'est ça qui crée aussi la véracité.
Oui, enfin, précisément, c'était l'inverse. C'est-à-dire que le lézard qui fait pipi du poison était justement quelque chose qui pouvait correspondre à l'idée qu'on pouvait se faire d'un langage très, très imagé et très cru.
Mais jouir.
Et cru aussi. Jouir était très.
Précisément, mais c'est la cohabitation des deux registres de langage qui crée la vie.
Et juste une question, David Diop, sur cette place justement qui va être croissante dans la deuxième partie du récit, du désir justement et du sexe. En fait, on passe de la tranchée qui ressemble justement à un sexe de femme, mais qui apporte la mort, à cette tache d'or qui va véhiculer au contraire les réminiscences très très tendres aussi, très très amoureuses. C'était important pour vous aussi de faire un récit comme ça en clair-obscur.
Oui, quelqu'un m'a dit qu'un récit finalement classique aurait voulu qu'on voit le personnage partir d'Afrique et arriver sur le théâtre de la guerre. Et moi, j'ai voulu m'extraire de cette...
C'est mieux comme ça, David.
de cette chronologie. Mais en parlant de cette période-là de l'enfance, j'ai voulu montrer aussi que le personnage avait une faille. Et cette faille, bon, elle est expliquée dans le livre. Son père est enraciné dans une terre et sa mère part. Et donc, c'est un personnage presque mythique qui est partagé entre l'ici et l'ailleurs. Et j'ai voulu montrer que peut-être aussi cette folie qu'il prend, eh bien, elle naît en Afrique.
Nicolas Fargue, on va continuer avec vous et cette Attache le cœur que vous publiez chez POL. Ça vous a intéressé le livre de David Diop? Parce que je crois que vous vous êtes lu.
Bien sûr, mais on a parlé de ces questions de langue tout à l'heure qui sont pour moi primordiales. Ouais. Avant même de savoir de quoi un livre parle, quand je loue, j'ai « comment tu me parles ?»
Mais sur cette problématique justement du noir au milieu des blancs, puis retournant en Afrique, enfin en tout cas pour ce qu'on en lit, cette place extrêmement compliquée, ils sont à la fois supplétifs du commandement blanc qui les utilise pour fusiller justement les blancs, et en même temps on les maltraite, quoi, cette espèce d'entre-deux qui est un peu le cas d'Attache le cœur.
Oui,
en fait,
bien sûr, moi je pense que la colonisation a beau être terminée officiellement, tout ceci est censé être une vieille histoire, elle continue encore aujourd'hui sous des formes plus ou moins nuancé, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai envie de dire, David et moi parlons des mêmes choses à des époques différentes.
Exactement. Je voulais juste, avant qu'on entre dans Attache le cœur et qu'on écoute le choix musical, vous nous parlez de l'Afrique contemporaine, mais vu aussi par le blanc que vous êtes, vous n'avez pas peur de l'accusation, alors c'est beaucoup outre-Atlantique, qui se prolonge, d'appropriation culturelle. Vous m'enlevez les mots de la bouche, qui est très en vogue aux États-Unis et qui voit d'un mauvais œil un blanc qui parle des noirs ou d'autres. Enfin, c'est dans toutes les sphères que tout ça se...
Je vais juste vous répondre très simplement. J'écris non pas pour chercher à plaire à quiconque ou pour correspondre à un certain mouvement dans l'air du temps. J'écris sur ce qui m'habite, sur ce qui
m'intéresse depuis
toujours.
Mais qu'est-ce que vous pensez de cette accusation?
Alors, je pense que la littérature
qui fait que Montesquieu n'aurait jamais pu écrire sur l'esclavage parce qu'il n'était pas esclave.
Je vais vous répondre très simplement. Je pense qu'il n'y a pas plus sismographique qu'une écriture. Et on voit si derrière, quelle est l'intention d'un auteur. Une écriture qui cherche à faire le beau, ça se sent. Une écriture qui cherche à se faire angéliste, ça se sent.
Non, mais au-delà de la forme, Nicolas Fargue, c'est une question de fond.
Non,
là.
Non,
c'est
une question de forme, Christophe, pour moi. Uniquement une question de forme.
Non, mais pas pour moi et pour... Moi, je suis d'accord avec vous, mais les accusations qui sont faites à Catherine Bigelow parce qu'elle parle des événements de Détroit et qu'en gros, elle n'aurait pas le droit d'en parler.
Ce que je veux dire par la forme, c'est... Vous savez, c'est le « touche pas à mon pote », par exemple. Qui est-on pour se poser en « moi je te protège, t'inquiète, moi je vais te protéger, toi tu sais pas te protéger tout seul ». Voilà, pour moi ça c'est du paternalisme, touche pas mon pote. Alors,
et on fait ce qu'on veut en fait, c'est ça.
On fait ce qu'on veut, si on commence à se poser les questions du « il faut » et du « il faut pas », on arrête d'écrire tout simplement.
Bah, très bien, voilà, c'est un point que je voulais qu'on aborde. Et vous, David Diop?
Je suis vraiment ahuri par cette idée d'appropriation culturelle. Un écrivain peut écrire sur tout ce qu'il veut. Ouais. L'art et la littérature sont l'expression et le lieu même d'une liberté très grande. Et Nicolas parle, moi je trouve très bien que Nicolas eh bien, parle du Cameroun.
Eh ben, on y va. Nicolas, on écoute d'abord votre choix musical. Malox le Viber. Ça sort comme ça sort, qui pourrait être le sous-titre encore.
C'est précisément
voilà,
pour ça que j'ai choisi.
Le cœur. Malox le Viber, ça sort comme ça sort. C'est le choix de Nicolas Farr qui publie Attache le cœur chez POL. Malox le Viber, je connaissais pas Nicolas Farr. Et le David Diop non plus d'ailleurs, hein, n'est-ce pas?
Non, je le connaissais. Je pense que si vous prenez des Français d'origine camerounaise, ils vont connaître Malox le Viber.
C'est qui Malox le Viber?
Bon, c'est un jeune rappeur camerounais qui vient d'enregistrer son dernier album à Paris. Là, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Mais c'est surtout la chanson qui passait dans tous les bars de Yaoundé quand je suis parti en juillet 2015. Et au-delà du côté festif de la chanson, il y a plusieurs choses qui m'intéressent à l'intérieur. Il y a d'abord le langage qu'il utilise. Il dit par exemple à un moment, quand il y a mon voisin qui fait un way qui me plaît, je wanda. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand j'ai mon voisin.
Alors est-ce que c'est dans le lexique d'Attache le cœur? Je regarde.
Non, il n'y en a pas un seul là. Le way, c'est votre goût, votre façon d'être, ce que vous aimez, c'est mon way. Et c'est là où vous voyez que l'anglais est présent dans le camfranglais, l'argot camerounais. Le way, c'est W-A-Y. Je wanda, qu'est-ce que ça veut dire je wanda? Ça veut dire, waouh, j'hallucine. Je wanda, le wonder anglais est devenu je wanda. Bon, bref. D'abord, il y a dans son langage beaucoup de choses qui sont, qui sont très intéressantes sur le plan purement linguistique. Comment on se réapproprie une langue? Comment est-ce qu'on la transforme avec la sensibilité du moment? Et selon une culture bien précise, qui est ce pays anglophone qui d'ailleurs souffre de son bilinguisme en ce moment. Il y a des problèmes sérieux en ce moment au Cameroun autour de cette question-là.
Entre l'anglais et...
entre la zone anglophone et francophone. La zone anglophone. C'est un cas exceptionnel de zone minoritaire anglophone dans le monde. Un cas exceptionnel. En général, vous avez le Québec qui est, qui est une zone francophone en milieu anglophone. Là, on a ça. Ça sort comme ça sort. C'est le cas de ces 15 personnages dont il est question dans ce livre. Ils parlent, on est dans leur tête, mais dans leur tête, c'est urgent, ça jaillit, ça sort comme ça sort.
Instantané camerounais, c'est le sous-titre de Attache le cœur. Donc 15 portraits à la première personne, de noirs et de blancs qui vivent au Cameroun ou qui l'ont quitté, mais qui ont toujours un rapport intense avec le Cameroun. Landry, Gilbert, Eric, Marie-Marthe, Sylvie. C'est à chaque fois un morceau de leur vie que vous nous racontez. Je le disais tout à l'heure, on a par exemple le jeune artiste africain qui lance un dossier pour une résidence d'artiste, qui fait relire par sa maîtresse blanche qui le manipule totalement, mais dans les deux sens en fait, c'est assez impitoyable à chaque fois. C'est-à-dire c'est à la fois noir-noir, les noirs entre les noirs, les blancs entre les blancs, blanc-noir, noir-blanc. Finalement, j'allais dire, il y en a pas un pour rattraper l'autre à la fois. Alors, on parlait des clichés tout à l'heure. C'est à la fois les clichés sont là. Alors est-ce que ces clichés sont vrais? C'est-à-dire le blanc qui se comporte en seigneur, en gros en Afrique, et en même temps de l'autre côté une corruption totalement endémique, ce qui fait que finalement, en dehors, c'est très très pessimiste, en dehors des rapports d'argent, rien ne tient, quoi.
Alors non, j'irais pas jusqu'à dire rien ne tient, mais disons que ça détermine beaucoup de choses quand vous êtes
Je parle du livre, hein, je parle des nouvelles en fait. C'est assez rare les nouvelles où il y a un peu même le blanc qui veut se mêler au noir parce qu'il en a marre des préjugés des diplomates qui restent entre eux et qui décident d'aller au foot et qui se retrouve en gros tout nu sur le stade. Ça c'est totalement. Alors, totalement inventé, Nicolas Farag.
Non, ça, ce sont des épisodes. Il y a 15 histoires à l'intérieur. Il y en a certaines qui sont vraies, qui sont inspirées de.
Mais le blanc qui se retrouve.
Je connais quelqu'un qui s'est arrivé.
Ah oui.
Ouais. Bon. La même histoire, exactement. ce que je veux dire, je ne cherche pas à. Vous savez, je ne suis pas politique. Je ne vais pas chercher à donner une image comme ci ou comme ça. Il y a ce que je suis, il y a ce que je perçois, et comment ça sort comme ça sort. Et il se trouve que depuis mon premier livre, je suis incapable de parler de façon sensée et crédible de choses qui vont bien. Moi, je parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Voilà. Et ça ne veut pas dire que les trains n'arrivent pas à l'heure dans la vie. Ça veut dire que moi, ce qui me fait écrire, c'est ce qui ne va pas dans les rapports humains. C'est l'entre-deux trouble des rapports humains. C'est le mensonge qui me fait écrire. C'est les apparences qui me font écrire. Si vous me dites de parler des choses qui vont bien, je vais vous dire, me demandez pas à moi, ça va être sirupeux, ça va rien donner du tout. En revanche, si vous me dites, parle du type qui veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas, là je saurais faire.
Voilà. On va lire un extrait pour que les auditrices et auditeurs du temps des écrivains entendent justement cette langue que vous inventez à chaque fois pour chacun de vos personnages. J'ai choisi, je pouvais choisir tous, Marie-Marthe, voilà, parce que justement j'ai une question là-dessus.
Marie-Marthe, on en croise tous les jours dans le métro, dans la RER. Voilà. C'est cette dame qui est assise ou qui est debout, en l'occurrence là elle est debout, dont on ne se doute pas qu'elle vient de loin, et pas d'une banlieue limitrophe derrière le périph', elle vient du 95, elle vient de loin, elle vient travailler dans le centre de Paris pour faire un boulot auquel on va l'identifier, mais elle a beaucoup plus que ça en elle, elle est beaucoup plus riche finalement, c'est quelqu'un qui a du courage déjà, qui ne se plaint pas, on parlait tout à l'heure de pudeur, voilà, c'est la pudeur incarnée Marie-Marthe. Mais dans sa tête, ça se passe pas forcément comme ça. Où est-ce qu'on en serait, nous, si on possédait tout ce qu'ils ont? Qu'est-ce que ce serait chez nous avec des transports publics réguliers, bien entretenus et qui arrivent à l'heure, avec des hôpitaux fiables et gratuits, avec des médicaments remboursés par la Sécu, des universités dignes de ce nom pour nos enfants, de l'emploi, des logements décents, des droits et de la justice pour tous? Il y a des matins comme ça où je me demande ce qui a bien pu passer par la tête de Dieu lorsqu'il a pris ses décisions. Comment a-t-il pu maudire ce peuple plein de jus que nous sommes et pourri gâter des gens aussi fades, mal poli et mal propre que ceci? Cette tête longue qu'ils font tous dans le RER le matin, du matin au soir, je ne comprends pas, ça me dépasse. Être protégé depuis la naissance jusqu'à la mort par votre système politique, comme vos parents avant vous l'ont été et comme vos enfants le seront aussi demain, cela ne suffit donc pas pour vous donner le sourire? Et tous ces magasins de vêtements qui remplissent leurs trottoirs et leurs centres commerciaux, ça ne les empêche pas de s'habiller tristes, mal et râpés? Regarde-moi tous ces pantalons et ces sacs noirs. Regarde-moi tous ces pardessus tout gris et ces souliers usés. Un peu de couleur, ça leur ferait mal aux yeux ou bien? Et l'eau courante à l'intérieur de leurs appartements, toutes leurs douches et leurs baignoires avec eau chaude et eau froide à volonté, est-ce qu'ils auraient seulement l'idée de s'en servir de temps en temps pour ne pas sentir aussi mauvais? Quelqu'un leur a-t-il dit que nous, en Afrique, dans les quartiers, dans cette Afrique à laquelle leur télévision et leurs dirigeants leur font croire et veulent nous faire croire à nous, Africains, si arriérés, si sales et si miséreuses, quelqu'un leur a-t-il seulement dit qu'on n'y tolère pas un corps qui se néglige? Au point de déshabiller de force en place publique les puants invétérés et de les laver au jet comme un vieux taxi au car wash pour leur apprendre à respecter cette terre que nous partageons tous? Leur a-t-on dit que, même avec nos robinets coupés tout au long de l'année par la Camerounaise des eaux, on parvient à garder impeccable matin et soir les corps et le linge d'une famille de 6 ou 7 enfants?
Merci Nicolas Farag. Attache le cœur chez PEL. Je vous voyais sourire, David Diop.
Non, parce que petit à petit, Nicolas, en lisant, a pris un autre accent. Et j'étais impressionné, en fait, parce qu'il est retourné dans le pays de son enfance.
Exactement, voilà. Oui, vrai que c'est aussi, parce que ça n'a pas de sens si je lis d'une voix standardisée, j'ai envie de dire, ça n'a pas le même...
Ça sort comme ça sort.
Ça sort comme ça sort, voilà.
Nicolas Farag, sur ce passage que vous venez de lire, alors effectivement, c'est très très différent hein, d'un personnage à l'autre. Vous attendez quoi ? Est-ce que vous attendez d'ailleurs quelque chose du lecteur, une prise de conscience, puisque là, en gros, elle dit bon bah voilà, ils devraient regarder ce qu'ils ont. Nous, on n'a rien, mais on se tient mieux quoi.
Non,
une prise de conscience, mais de quoi ?
Non, vous savez, je n'ai de leçons à donner à personne. Mm. Tout ce qui moi m'intéresse, c'est d'essayer de partager la façon que j'ai de voir les choses. Mm. Ce que je vois, moi, quand je me balade dans Paris, je regarde tout le monde. Je regarde les gens en me disant, et plus particulièrement, je dois dire, ça c'est lié à mon enfance à laquelle David vient de faire référence. David, vous avez vécu au Sénégal enfant, j'ai vécu au Cameroun. À bien des égards, ma vie en a été ensuite déterminée. Et je ne peux pas arriver dans un endroit sans me dire de quoi est composé l'espace humain ici. Qu'il y a là où nous sommes. On arrive dans Radio France. Combien il y a de noirs ici, par exemple ? Voilà, c'est une question que je me pose. Alors il y a des noirs peut-être en bas qui vous checkent le sac, mais il y en a combien dans les studios ? Il y en a combien à la production ? Il y en a combien aux manettes ? Voilà, ça, ce sont des questions que je me pose tous les jours, cher Christophe. Et je n'ai pas à dire à nos politiques faites une politique plus ouverte. J'essaie juste de dire aux gens. Ouvrez les yeux. Les yeux et ne restez pas dans...
Je pensais au livre, parce que dans ce contexte-là... Alors, je voulais le lire, mais il nous reste très peu de temps. Mais ce personnage qui décide d'aller au match de foot, Julien, en gros, même le type qui est sans préjugés, vous le massacrez, quoi.
Oui, parce que...
Même c'est... le type qui est bien, qui se dit, mais les Blancs sont que entre eux, moi, ça m'intéresse pas, je suis là, je suis au Cameroun, pour moi, qui va plein de... Qui est même pas naïf, qui est juste humain, quoi. Ouais. Qui est juste humain, quoi. Ouais. Qui est curieux, quoi. Même lui, il prend cher. Très cher. Ouais. Donc, c'est en cela que je disais, pas le Nicolas Fargue qui arrive à Radio France, mais le Nicolas Fargue, auteur de ce kaléidoscope de voix africaines, de voix françaises qu'est-ce qu'il attend, en fait, de nous, lecteurs? Voilà.
Ben, en fait, je demande pas au lecteur forcément de lire et d'aimer mon livre. Ouais. Je dis que s'il y rentre, ben voilà, il sait à quoi s'attendre.
Ouais.
Il va s'attendre à une mise en exergue absolue des malentendus qui régissent nos rapports souvent. Mm. Et il n'y a pas plus malentendu, je trouve, parfois, que des rapports noir-blanc. Ce n'est pas innocent. Mm. Ce n'est jamais innocent. Mm. Mais,
et on le disait tout à l'heure, si les quelques auditeurs et auditrices nous rejoignent maintenant, puisque c'est la fin de cette émission, que vous continuerez à revendiquer le droit, en étant blanc, de pouvoir écrire sur des noirs, sur n'importe qui, en fait.
Je viens me faire pardonner de rien.
Parce que vous avez écrit sur une héroïne noire, d'ailleurs, mais une femme. Oui, donc c'était presque la double. Aux États-Unis, ça serait la double peine aujourd'hui pour vous, Nicolas.
Oui, on me l'a dit en Afrique du Sud, on m'a dit, mais pourquoi qu'est-ce qui t'arrive, en fait? Pourquoi tu fais ça? Ben voilà, ensuite, c'est des questions culturelles. Je ne suis pas sud-africain, je ne suis pas américain, je suis français. Et les données sont différentes aussi à ce titre dans ce pays. L'immigration, l'histoire de la colonisation n'est pas la même qu'aux États-Unis. Elle n'est pas la même qu'en Afrique du Sud. Donc, on a des problèmes, entre guillemets. On n'a pas des problèmes, on a des données différentes à ce niveau-là.
David Diop.
Nicolas a tout à fait le droit de prendre un personnage féminin, noir, et d'en faire son personnage principal. La littérature et l'art en général, c'est le lieu de la liberté.
Votre prochain livre, David Diop, vous avez commencé déjà à travailler ? On sera aussi... Parce que le précédent aussi était lié, c'était pratiquement un sujet assez proche.
Oui, c'était une préoccupation autour de la représentation de l'Afrique et de l'Africain au 19e siècle, c'est en 1889, au moment du centenaire. Non, je ne travaille pas là.
Vous ne travaillez pas, c'est bien. Et vous, Nicolas ? Parce que c'était un délassement entre deux livres, celui que vous avez expliqué.
Il y a quelque chose qui a commencé.
Très bien. Bah, écoutez, on vous reverra certainement ici. Merci à vous.
Merci.
David Diop, Frère d'âme, c'est au seuil. Et Nicolas Fargue, Attache le cœur, c'est chez POL. Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci.
Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, avec la complicité de Joyce Brunet-Jailly, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la technique Alain Joubert. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook, tweeter, podcaster, réécouter pendant une éternité, finalement, sur franceculture.fr, 7h, avec David Diop et Nicolas Fargue.